Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 continuent en ce mois de juin 2021. Et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Villaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. L'Argentine commence la production locale du vaccin Sputnik V contre le coronavirus, qui a déjà tué plus de 83 000 personnes dans le pays. L'élection présidentielle péruvienne bascule de justesse en faveur du gauchiste Pedro Castillo. En Colombie, le dialogue entre les manifestants et le gouvernement a été rompu à l'arrivée d'une mission internationale pour enquêter sur d'éventuels abus de la police. Le Salvador veut être le premier pays au monde à légaliser le Bitcoin. Le gouvernement argentin présente un projet de loi pour promouvoir le développement du cannabis médical. Le chef du gouvernement espagnol propose à l'Argentine d'être la porte d'entrée du pays dans l'Union européenne. Sport. L'équipe nationale de football d'Argentine a fait 2 matchs nuls lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'Argentine commence ce mois-ci à produire localement le vaccin Sputnik V contre le coronavirus. L'annonce a été faite par le président Alberto Fernández lors d'une vidéoconférence qu'il a partagée avec son homologue russe Vladimir Poutine. Dans ce contexte, le réactif nécessaire à la mise au point du vaccin dans le laboratoire de Richmond, situé à Pilar, dans la province de Buenos Aires, est arrivé sur un vol d'Aerolíneas Argentinas en provenance de Moscou. Le même avion portait 500 000 de doses du vaccin développé par le centre Gamaleya de Moscou, principalement le composant 2, qui est attendu par des centaines de milliers de personnes ayant reçu le premier. Le rythme de la vaccination s'est considérablement accéléré en Argentine au cours de la semaine dernière et a atteint samedi le record de plus de 360 000 injections en un seul jour. Plus d'un quart de la population a déjà été vaccinée avec au moins une dose d'AstraZeneca, Sinopharm ou Sputnik. En outre, plusieurs districts ont ouvert le registre de vaccination, qui est volontaire, pour la population générale, c'est-à-dire sans facteur de risque, âgés de 50 à 60 ans. Dans certains districts, comme la province de Buenos Aires, des personnes âgées de 40 à 45 ans ont déjà été appelées pour recevoir l'injection. Le gouverneur de cette juridiction, Axel Kicillof, a annoncé un accord avec un laboratoire en Inde pour l'achat de 10 millions de doses de l'inoculant Covaxin. Il s'agit d'un médicament de la firme Bharat Biotech qui n'a pas encore été autorisé par l'Agence de régulation des médicaments en Argentine, l'ANMAT. En ce qui concerne les vaccins, mardi, la Chambre des députés a tenu une réunion avec les représentants des laboratoires pour être informés des négociations et des contrats pour la fourniture de doses. Dans ce contexte, le directeur de Pfizer en Argentine, Nicolas Baquer, a déclaré que le dialogue avec le gouvernement argentin se poursuit afin de parvenir à un accord et qu'aucun contrat n'a encore été signé parce que le cadre juridique argentin n'est pas compatible avec les besoins de la société pharmaceutique américaine, bien qu'il ait souligné que des progrès sont réalisés en la matière. Baquer a également confirmé que Pfizer n'avait pas demandé de pot de vin ni accepté d'intermédiaire, comme l'avait dénoncé Patricia Bullrich, chef du parti d'opposition PRO. Il convient de noter que cette dirigeante a également déposé une plainte il y a quelques jours devant l'ONU pour de prétendues irrégularités et un manque de transparence dans la campagne de vaccination argentine. Marcelo Figueras, directeur du laboratoire Richmond, a annoncé lors de la réunion d'information du Parlement que la production locale de Sputnik V commencera cette semaine, avec au début 500 000 doses par semaine, qui atteindra progressivement 5 millions par mois. L'Argentine enregistre plus de 83 000 décès dus au Covid-19, alors qu'on constate une légère baisse du nombre d'infections quotidiennes dans certaines régions, comme la ville de Buenos Aires. Cependant, dans d'autres juridictions, comme la province de Córdoba, l'augmentation du nombre de nouveaux cas par jour et la saturation des services de réanimation ont conduit les autorités locales à renforcer les restrictions, comme la fermeture des écoles. Le Congrès argentin débat cette semaine d'un projet de loi pour réglementer les mesures basées sur le nombre de cas par jour par rapport à la population et à la situation du système de santé. S'il n'est pas approuvé vendredi, date d'expiration du décret d'urgence sanitaire actuel, le président Alberto Fernández devrait signer un renouvellement du décret. Au Pérou, le second tour s'incline de justesse en faveur du gauchiste Pedro Gatica, mais la conservatrice Keiko Fujimori remet en cause les résultats. Le dépouillement étant terminé à 99,9%, les autorités électorales indiquent que Gatica est en tête du scrutin avec 50,20% des voix, tandis que sa rivale accumule 49,80%. Dans ce contexte, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori a dénoncé que des fraudes avaient été commises pendant les élections du 6 juin. Lors d'une conférence de presse, la candidate de la Force populaire, qui fait l'objet de poursuites pour corruption, a accusé le parti de son rival, Pérou Libre, de fausser les résultats. La coalition de Gatica a rejeté ces allégations et a déclaré que Pérou Libre n'a jamais eu recours à la fraude électorale. Au contraire, nous en avons toujours été victimes. Jorge Salas, responsable du jury national des élections, a également critiqué les déclarations de Fujimori et a déclaré « C'est rendre un mauvais service à la démocratie que de parler de fraude qui n'existe pas ». France 24 informe à ce sujet depuis Lima, la capitale péruvienne.
Il y a deux jours, Keiko Fujimori, en tête des premiers résultats de la présidentielle péruvienne, appelait ses partisans au calme et à la paix. Ce mardi, tandis que les derniers décomptes la donnent perdante face à son adversaire, le socialiste Pedro Castillo, son discours change.
Il y a eu une série d'irrégularités qui nous préoccupent et nous pensons qu'il est important de les mettre en évidence et surtout d'appeler les citoyens à nous aider à découvrir s'il y a d'autres irrégularités comme celles qui ont été révélées ces derniers jours.
Face à ses supporters, Pedro Castillo lui répond.
Nous devons respecter la volonté du peuple et je serai le premier à respecter la volonté des Péruviens.
Pedro Castillo et Keiko Fujimori incarnent un Pérou profondément divisé. D'un côté, celle qui représente la droite libérale et les milieux d'affaires, mais aussi fille de l'ancien président Alberto Fujimori, Keiko Fujimori bénéficie des voix de la capitale, Lima. De l'autre, un syndicaliste et enseignant, Pedro Castillo préconise des nationalisations dans les secteurs des mines et de l'énergie, et ce sont les voix des campagnes qui lui ont permis de rattraper son retard. Le nouveau président ou la nouvelle présidente du pays doit prendre ses fonctions le 28 juillet.
Une ambiance de fête. Et pourtant, ces partisans de Pedro Castillo espéraient entendre un discours de victoire. Finalement, leur héros n'apparaîtra pas comme la veille à la fenêtre. Il s'exprime dans un simple message sur les réseaux sociaux.
Ne tombons pas dans le piège des provocations de ceux qui veulent voir ce pays plongé dans le chaos. Par conséquent, nous lançons un appel à la paix et à la tranquillité.
L'avance de Pedro Castillo n'est que de quelques dizaines de milliers de voix et la commission électorale pourrait prendre encore quelques jours avant d'annoncer les résultats définitifs. Car le camp adverse crie à la fraude. Un peu partout dans le pays, les partisans de Keiko Fujimori le font savoir dans la rue. Mercredi soir, la candidate de droite a déposé des recours. Elle conteste jusqu'à 500 000 votes et va jusqu'à demander l'annulation pure et simple de 200 000 bulletins.
Il ne s'agit pas de ma candidature, mais il s'agit du respect du vote de millions de Péruviens qui veulent que leur voix soit respectée. Je sais que ce sont des moments d'incertitude, mais faisons confiance aux autorités pour que ce processus soit fait dans la transparence.
Keiko Fujimori avait déjà échoué deux fois au second tour d'élection présidentielle et en cas de nouvelle défaite, la candidate de la droite populiste pourrait retourner en prison où elle a déjà passé plus d'un an pour une affaire de pot de vin et de corruption. Son père, l'ancien président Alberto Fujimori, purge lui une peine de 25 ans pour corruption et crime contre l'humanité.
Des élections ont également eu lieu dimanche au Mexique, où le parti Morena du président Andrés Manuel López Obrador a été le plus voté. Le parti au pouvoir n'a cependant pas obtenu les voix nécessaires pour atteindre la majorité des deux tiers au Parlement, et bien qu'il conserve une majorité simple, il a perdu une cinquantaine de sièges. En outre, dans la capitale, Mexico, l'opposition a remporté presque toutes les mairies. Il convient de noter qu'à peine plus de la moitié de l'électorat a voté. López Obrador est presque à son mi-mandat de 6 ans, qu'il appelle la quatrième transformation de l'histoire du pays. Mais sans une majorité qualifiée au Parlement, il lui sera plus difficile de mener à bien plusieurs de ses réformes. En Colombie, les pourparlers entre le gouvernement du président Iván Duque et le Comité national de la grève, qui représente une grande partie des personnes qui manifestent dans les rues depuis le 28 avril, ont été suspendus. Selon les médias, les négociations ont échoué parce que les grévistes n'ont pas accepté la demande de lever des dizaines de blocages de rues et de routes. Entre-temps, le comité a accusé le gouvernement de retarder le processus afin de ne pas signer un accord qui garantirait la poursuite des protestations en toute sécurité. Duque a fait part de sa volonté de dialogue et a annoncé un projet de réforme des forces de sécurité qui est l'une des revendications des manifestants. Dans ce contexte, une mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme est arrivée en Colombie pour enquêter sur les abus présumés de la police pendant les manifestations. Selon les données officielles et les ONG, plus de 50 personnes sont mortes depuis le début des manifestations, principalement en raison de la répression. En outre, il existe des allégations de torture, de violences sexuelles et même de disparitions qui seront analysées par la Commission lors de visites dans la capitale Bogota et surtout à Cali, l'épicentre du conflit. Dans ce contexte, mercredi 9 juin, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues pour protester contre le président Iván Duque. Voici le rapport de France 24.
6 semaines après le début du soulèvement populaire, la colère de la rue ne retombe pas. Ici, à Bogota, la capitale, ils sont des milliers rassemblés contre le gouvernement d'Iván Duque et pour dénoncer les méthodes répressives de la police. Au moins 59 protestataires ont péri lors d'affrontements. Les blessés se comptent par milliers.
Nous ne voulons pas d'un État qui fait régner la terreur. Nous ne voulons pas d'un État qui assassine ses citoyens. On ne peut pas tuer la jeunesse. C'est l'avenir de notre pays.
La situation est devenue hors de contrôle le 28 mai dernier dans la ville de Cali, où l'armée colombienne a été déployée. 13 manifestants sont tombés sous les balles des policiers. Plusieurs agents sont actuellement visés par une enquête. Une délégation pour les droits humains s'est rendue dans le pays pour faire la lumière sur ces décès. Dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch accable la police colombienne.
Les autopsies suggèrent que les tirs à l'arme à feu visaient directement la poitrine ou la tête de la personne. Cela montre également que les agents publics, la police, auraient tiré pour tuer.
Pour calmer les esprits, le président colombien a annoncé dimanche une refonte du système policier après avoir reculé sur une réforme fiscale à l'origine de la crise sociale que traverse le pays. Un mouvement de contestation inédit mené essentiellement par des jeunes. Ils réclament un changement de politique et plus de solidarité de la part de l'État à l'heure où 42% de la population est touchée par la pauvreté.
Le président chilien Sebastián Piñera a déclaré la semaine dernière que le moment est venu d'approuver le mariage pour tous. Le président a anticipé qu'il donnera caractère d'urgence à un projet qui est en débat au Parlement depuis 2017 pour légaliser le mariage entre personnes du même sexe. Dans un message au Congrès, Piñera a déclaré « Nous devons approfondir la valeur de la liberté, y compris la liberté d'aimer et de former une famille avec l'être aimé ». Cela a provoqué des divisions au sein de sa propre coalition gouvernementale, compte tenu du profil plus conservateur du pays par rapport à ses voisins qui pratiquent déjà le mariage égalitaire, comme l'Argentine et l'Uruguay. Le projet de loi qui pourrait être promulgué en 2022 est un autre des grands virages politiques de ces derniers temps au Chili, qui vient de voter réformer la constitution héritée de la dictature de Pinochet. Par ailleurs, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé un projet de loi pour autoriser le Bitcoin comme monnaie. Si l'initiative est approuvée, la nation d'Amérique centrale sera le premier pays au monde à légaliser la crypto-monnaie. Bukele l'a anticipé lors de la conférence Bitcoin qui s'est tenue le week-end dernier à Miami. Le président salvadorien a dit que le projet veut générer des emplois et intégrer des milliers de personnes dans l'économie formelle, dans un pays où, selon lui, 70% de la population n'a pas de compte bancaire. Pourtant, son secrétaire au commerce, Miguel Catán, a rapidement relativisé l'annonce présidentielle et précisé que les transactions en Bitcoin seraient facultatives. Finalement, la vice-présidente américaine Kamala Harris s'est rendue au Guatemala lors de son premier voyage d'État à l'étranger depuis son entrée en fonction en janvier. Reçue dans la capitale Guatemala City par le président Alejandro Giammattei, elle a envoyé un message aux Centra-Américains qui veulent migrer vers les États-Unis. Ne venez pas. Elle a ajouté que l'administration de Joe Biden veut aider les Guatémaltèques à retrouver l'espoir chez eux. Harris a également annoncé des plans de Washington pour lutter contre le trafic d'êtres humains et de drogue en Amérique centrale. L'Argentine veut dynamiser le développement du cannabis à des fins médicinales suite à la légalisation en 2017. Selon le gouvernement, cette activité peut générer des recettes d'exportation allant jusqu'à 100 millions de dollars par an et créer jusqu'à 10 000 nouveaux emplois. En présentant un projet de loi pour promouvoir le secteur, le ministre du Développement productif, Matías Culfas, a déclaré que le marché du cannabis médical connaît une croissance exponentielle au niveau mondial. Et il a ajouté que l'Argentine a une grande opportunité d'être un leader régional grâce à ses capacités agricoles et industrielles et à son réseau scientifique productif. Le cannabis et ses dérivés comme l'huile peuvent être utilisés dans le traitement de maladies et d'affections telles que le glaucome, les douleurs chroniques et la sclérose, entre autres. Il convient de préciser que la culture, la possession et la consommation de marijuana à des fins récréatives sont toujours interdites par la loi en Argentine. Plusieurs collectifs font campagne pour la légalisation, comme cela s'est produit en Uruguay en 2013. Dans d'autres nouvelles économiques, l'activité métallurgique a augmenté de plus de 50% en glissement annuel en avril en Argentine, selon la principale chambre du secteur. Cette source a souligné que cette augmentation est due au fait qu'au cours du même mois de 2020, la plupart des usines et des établissements sont restés fermés en raison de la pandémie de Covid-19. Contrairement à l'année dernière, le secteur industriel travaille presque à plein régime dans le cadre de protocoles sanitaires. Enfin, la Chambre des députés débat d'une initiative pour appliquer une réduction allant jusqu'à 50% du service de gaz naturel pour les ménages situés dans les zones à basse température. S'il est approuvé, la loi bénéficiera à environ 3 millions d'utilisateurs en Patagonie et dans des provinces telles que San Luis, Salta, Mendoza et San Juan. Pedro Sánchez propose à l'Argentine de faire de l'Espagne sa porte d'entrée dans l'Union européenne. Le mercredi 9 juin a débuté la visite officielle du chef du gouvernement espagnol en Argentine, premier dirigeant étranger à être reçu par Alberto Fernández, alors qu'ils se sont rencontrés il y a moins d'un mois à Madrid, à l'occasion de la tournée européenne de l'Argentin en quête de soutien pour sa demande de renégociation de la dette auprès du club de Paris et du FMI. L'Espagne est aux côtés de l'Argentine dans ses négociations avec le FMI, a affirmé le visiteur. Et il a proposé que son pays soit la porte d'entrée de l'Argentine dans l'Union européenne. Sport. L'équipe nationale de football d'Argentine a récolté 2 points en match de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, les premiers qu'elle a disputés cette année. À domicile, l'Albiceleste a fait match nul avec le Chili, 1-1, puis avec la Colombie, 2-2 à l'extérieur. Ainsi, l'équipe nationale reste deuxième au classement dans la course à la Coupe du Monde, avec 12 points derrière le Brésil.
Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina.
À Paris a eu lieu le vote pour l'Expo mondiale 2023 de sciences et technologies. Et c'est Buenos Aires qui a gagné. Cette expo aura lieu à Tecnópolis, dans la banlieue nord de Buenos Aires.
Bonjour, nous sommes l'Argentine, et s'il y a quelque chose qui nous définit, c'est la diversité. Dans nos presque 3 millions de kilomètres carrés, on peut trouver tous les climats et plusieurs paysages, dont quelques-uns ont été déclarés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. À la diversité de la nature s'ajoute celle de nos habitants. Entre 1880 et 1950, nous avons accueilli 5 millions d'immigrants. Tous ces immigrants de la première heure nous ont appris la valeur de l'effort et la culture du travail, mais aussi leur manière personnelle de jouir de la vie et de la célébrer. Peu importe d'où vous venez, c'est sûr que vous rencontrerez quelqu'un de proche en Argentine. Nous sommes un pays sans conflits belliqueux, raciaux, religieux ou frontaliers. Et c'est ainsi que nous avons appris tous ensemble à cohabiter en paix comme une nation unique et unie. En Argentine, il y a aussi un petit bout de la Colombie, du Chili, du Pérou, de la Bolivie et du Paraguay. Et si on se fâche avec l'Uruguay et le Brésil, ce n'est que pour le fou. Sur notre sol, nous produisons des aliments pour 400 millions de personnes. Mais aussi, nous exportons, entre autres, des logiciels, des réacteurs nucléaires, des hélicoptères, de la biotechnologie et des jeux vidéo. De même que tous les jeunes, nous avons commis des erreurs. Mais nous en avons beaucoup appris. Nous avons deux prix Nobel de la paix et un pèlerin de la Concorde. Nous avons quelques champions. Mais une seule passion nous rend fous et nous empêche de dormir. Nous avons quatre unicornes technologiques, trois prix Nobel en sciences, deux Oscars et un extraterrestre. Et disons que toute cette diversité fait de nous des créatifs, des curieux et des entrepreneurs. Nous aimons partager ces réussites avec le monde entier. Nous sommes chaleureux et extravertis. Pour notre asado, il y a toujours une place pour un invité de plus. Nous sommes l'Argentine, nous sommes la diversité. Nous avons été, nous sommes et nous continuerons d'être à jamais une nation ouverte au monde. Argentine, Buenos Aires 2023, soyez tous les bienvenus.
Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las 13 maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamuyo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango, siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel, porque aprendí a crecer acá, ya no me voy más, yo soy de acá. ¡Hey! Somos un buen polvo y el asado con amigos. Si la vida miente, le cantamos falta envido. Y si el río se llevó la plata, nos vamos a cartonear a orillas del mar. Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palo.
malos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos luchando contra molinos, sangrando por un siglo mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, el Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer. Es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien. Por si acaso igual yo me río para no llorar también. ¿Sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos.
Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar.
Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera despeñida de los locos sin atar.
Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar.
Somos una mezcla milagrosa, para bien y para mal. Somos de acá, somos de acá, somos de acá, somos de acá.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rennes et l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.